Bonjour à tous, sur cette page du site, je vais effectivement avancer le témoignage de ma part d'un rêve que j'ai fait cette nuit. Dans ce rêve, effectivement, j'arrive à entrer sur une exoplanète par un sentier, alors que je suis dans une voiture, une routière plutôt, une grosse voiture. La nuit, je arpente ce sentier de bas en haut avec du gravier blanc et donc des gens avec des impairs habillés plutôt des blousons impairs, type impair, enfin bon, habillés plutôt en blanc qui sont nos semblables et dont effectivement j'ai extrait un récit écrit que vous trouverez dans l'onglet psychanalyse et coach, life coach. Donc effectivement, ce récit de mes rêves constitue maintenant un ouvrage d'une trentaine ou quarantaine de pages à peu près, où il y a plus d'une vingtaine de rêves. Donc effectivement, j'ai pu écrire, rédiger mes rêves en m'entraînant d'une certaine façon pour pouvoir m'en souvenir au moment où je les écrivais. Et de les écrire d'une certaine manière, avec des mots qui soient le plus près, au plus près du relief du rêve, évidemment. Tant un rêve est si difficile à écrire par son élasticité, ses transformations en tant que personnage, en tant que les autres, en tant que l'environnement tridimensionnel dans lequel on est, etc. Donc voilà, je voudrais dans ce bouton qui se trouve sur ce site, vous proposer de me suivre sur une question, c'est qu'en fait, sachez que les exoplanètes les plus proches, en fait, sont extrêmement loin. Elles sont tellement loin que on peut considérer aussi qu'il y a un peu comme une oxymore entre le fait que nous disions qu'une planète, une exoplanète est proche, parce qu'elle s'appelle exoplanète, parce qu'elle serait la plus proche, et néanmoins, pour autant, étant à des années-lumière d'ici. Donc effectivement, il y a comme une contradiction. C'est-à-dire que même quand on dit année-lumière, on évoque par là la distance. C'est-à-dire qu'on contracte la vitesse de la lumière et un temps. Un temps pour que cette lumière nous atteigne. Donc effectivement, il y a comme par là une contradiction sur un plan rhétorique. On peut considérer que c'est quasiment une oxymore. Alors pour faire simple, effectivement, notamment, les premières exoplanètes sont à des distances d'années-lumière absolument gigantesques. Donc il faudrait plusieurs années, voire plusieurs siècles ou plusieurs millénaires pour atteindre ces exoplanètes en se déplaçant même à la vitesse de la lumière. À travers ce rêve, comment vous dire, je pense que je me suis déplacé d'un point de vue strictement imaginaire, bien entendu, mais à une telle vitesse qu'elle aurait été au-delà de la vitesse de la lumière par définition. Donc, d'un côté, par l'imagination, on va plus vite que la vitesse de la lumière. On peut en faire l'expérience dans un rêve, ou dans un film bricolé de multiples mains, totalement artificiellement. Maintenant, est-ce que la vitesse de la lumière, qui est la constante, la célérité de Einstein, est-ce qu'elle n'est pas plutôt un seuil qu'une limite, enfin, en tant que telle, une limite sous forme d'une impasse? Là-dessus, je pense que les découvertes en physique ne sont pas prises dans une impasse du fait de la vitesse maximale que constitue la vitesse de la célérité de la lumière. Mais effectivement, ce n'est pas parce que nous sommes dans l'impasse d'une vitesse maximum que nous sommes dans l'impasse de développement scientifique, évidemment. En revanche, être au-delà d'une impasse dans des développements scientifiques peut autoriser de voir au-delà de la finitude de la vitesse de la lumière. Alors, comment? Eh bien, parce que la vitesse de la lumière serait un seuil. Un seuil qui conditionnerait la théorie de la relativité restreinte générale d'Einstein et les conséquences externes, les externalités, etc. Donc ça conditionnerait ce paradigme einsteinien. qui ne changerait pas d'un iota en lui-même, mais en même temps que de le conditionner, ça n'interdit pas la possibilité de concevoir qu'il y a des objets qui peuvent aller plus vite que la vitesse de la lumière dans un déplacement, et que donc ça ouvre d'autres perspectives de développement en science. 300 000 km/s, ça peut être déplacé par des objets spéciaux. Nous ne savons pas ce que c'est exactement que la matière noire. Nous ne savons pas ce qui se passe au-delà de l'horizon, de l'événement de l'horizon événement qu'on trouve dans le trou noir. En fait, on ignore énormément de choses. On est au tout début de la physique. Nous avons la possibilité de nous déplacer par la pression de l'air exercée sur les structures d'objets volants, des aéronefs, par propulsion en réaction, etc., etc. Mais nous n'avons pas conçu jusqu'à présent d'objets pouvant se déplacer dans l'espace en trois dimensions sans se désolidariser de l'air, si vous voulez. Nous ne pouvons circuler sur Terre dans l'espace tridimensionnel, que parce qu'il y a de l'air. La question, c'est que, effectivement, par rapport à tous ces aspects que nous ne connaissons pas, la matière noire, qu'est-ce que c'est exactement, qui est pourtant une composante majeure, je crois bien, dans l'univers, et puis nous ne savons pas ce qui se passe précisément au niveau de l'accrétion, du disque d'accrétion d'un trou noir, nous en avons que des hypothèses où nous avons eu des retours par observation de télescopes ou de spectrométrie très spéciales. Mais au-delà de ça, voilà. Donc on sait qu'un trou noir peut se former, par exemple, lorsqu'une étoile gonfle, s'épanche et devient saturée en termes de masse. On appelle ça des géantes rouges. Effectivement, leur quantité de masse est tellement importante que la matière, la gravitation, si vous voulez, s'effondre sur elle-même. Et donc, effectivement, par cet auto-effondrement, cela va créer un trou noir. C'est-à-dire que même la lumière ne pourrait s'en échapper pour un objet hypermassif tel que le trou noir. Nous savons que cette étoile peut aussi faire l'objet d'une supernova géante, absolument géante, et créer un système solaire par la suite par la force gravitationnelle des poussières qui sont émanées et par la formation au centre de la supernova d'une naine blanche ou d'un quasar, c'est-à-dire ou une étoile à neutrons. Voilà. Enfin, cela reste tout cela à vérifier dans Encyclopédis Universalis, je vous le recommande. Sinon, vous pouvez encore continuer à m'écouter sur cette question-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup d'inconnus dans cette histoire d'univers, corrélativement à des vitesses qui sont extrêmes et qui constituent pourtant les bases de la régulation de l'univers. Si on parle par exemple des quasars, on peut situer qu'il y a des étoiles à neutrons aussi qui émettent des jets de plasma à une vitesse absolument vertigineuse. Est-ce que c'est à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s? Est-ce que c'est au-delà? Est-ce que c'est en dessous? Voilà, tout ça, ce sont des questions. Normalement, depuis la théorie de la relativité, aucune vitesse n'est autorisée à être supérieure à celle de la lumière. Bon. Mais on peut se poser des questions. Devant l'aspect pharaonique de tant d'objets hyper violents dans l'univers, de phénomènes comme ça absolument extrêmes en termes énergétiques, et donc on peut se demander si effectivement on n'est pas devant une telle masse d'inconnus que effectivement cela entraînerait par là même la question de vitesse d'objet d'une façon tout à fait étonnante qui dépasserait l'imagination. Maintenant, moi dans mon rêve, je suis arrivé sur une exoplanète dans une voiture routière, ce qui est plutôt amusant. Et j'ai vu que ces extraterrestres que j'avais en face de moi étaient tout à fait semblables à moi et à nous autres sur Terre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une récurrence statistique dans tout cela. Si vous avez à peu près 1 milliard d'exoplanètes entre elles, vous avez forcément, à l'intérieur de ce segment de 1 milliard d'unités, forcément une régularité, c'est-à-dire une fréquence de ressemblance et de, si je puis dire, de vraisemblance, pardon, de ressemblance. Et donc, par là même, vous auriez une fréquence, comme je l'ai dit, donc de populations qui seraient ressemblantes entre elles. Soit par des doublons, soit par des regroupements de 2, de 3, enfin voilà. Voilà, donc vous voyez que si vous divisez 1 milliard par 3, vous aurez par exemple donc 3, 3, 3, 3000, 33 en 33, ou, etc. Enfin vous voyez, vous aurez la possibilité à ce moment-là d'avoir des regroupements par doublons. Maintenant, au-delà de cet aspect statistique, ce qu'on peut considérer simplement, c'est qu'un rêve, c'est beau. Le rêve que j'ai fait cette nuit était très beau. C'est-à-dire qu'arriver sur une exoplanète par une voiture routière, une grosse voiture routière des années 90, pardon, des années 2000, par exemple une Audi ou que sais-je, dans l'obscurité et la nuit, et après monter le sentier de bas en haut avec des graviers blancs, et se rendre compte qu'on est devant une population qui nous ressemble, c'est assez génial. Là où je m'exprime en anglais, je leur explique que je viens de loin, d'une planète Terre, je leur explique tout. Mais ils comprennent pas l'anglais. Voilà. Pourtant, la langue universelle sur Terre, c'est l'anglais, et eux, ils comprennent pas l'anglais. Ça prouve bien que, en fait, quand ils me regardent avec étonnement, qu'ils comprennent pas mon anglais, ça prouve bien que je suis bien effectivement sur une planète qui n'est pas la Terre. Voilà, puisque l'anglais est la langue internationale très connue sur Terre, sur notre planète. Donc effectivement, sur cet enregistrement, ce qui est intéressant, je trouvais, c'était de mettre en corrélation le sujet, l'imaginaire et l'univers. Voilà. Je vais m'arrêter sur cet enregistrement et je voulais aussi, donc pour conclure, malgré tout, je pense sur ce point-là, qui est à noter, c'est qu'en fait, à travers ce site internet, vous verrez donc l'onglet psychanalyse sur lequel j'ai publié les deux résumés de deux rêves différents, même, voire trois rêves d'ailleurs, car je trouve intéressant de lire un rêve en tant que récit et de le considérer comme un récit, autant qu'un levier qui nous permet de nous interroger sur nos limites sociétales, sur nos limites sociales, sur nos limites psychosociales, sur nos limites épistémologiques, sur nos limites d'un point de vue organisationnel et d'éthique environnementale, de responsabilité économique et sociétale, écologique, durable, développement durable. Tout ça, je trouve ça très intéressant d'imaginer au-delà d'une co-viabilité, d'une viabilité, d'imaginer au-delà de tout ça, effectivement, comment on peut ouvrir vers un autre monde en tant que tel, défini par d'autres problématiques que nous connaissons à l'heure actuelle, qui, effectivement, alignent, si je puis me permettre, l'inconscient, virgule, le sujet, virgule, l'imagination, virgule, et les productions scientifiques, la sécrétion scientifique. Donc voilà, j'espère que vous trouverez sur ce site donc des éléments, pas uniquement bien sûr que dans l'onglet où il y a ces récits de rêve, mais c'est-à-dire l'onglet psychanalyste, pardon, et life coach, mais dans les autres onglets aussi des recoupements, une résonance que provoque ce site pour des matières différentes entre elles, évidemment, des expertises différentes, une résonance entre ces expertises qui pourront acheminer, disons, l'internaute, le public, vers des questions qui ne se seraient pas posées auparavant. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'un peu de nourrir l'internaute. S'il est client de mes services, de pouvoir s'approprier un certain nombre de contenus à sa façon, de sorte qu'il puisse lui aussi être actif dans sa demande, pas être uniquement dans une demande, je dirais, brute et neutre et peut-être même dans certains cas un peu archaïque, comme ça peut exister dans le monde socio-professionnel, aussi dans le monde de la consommation, bien évidemment. Et donc la question, c'est ça, c'est qu'effectivement, je pense que l'internaute peut être armé un peu plus pour comprendre un certain nombre d'aspects de recoupement et en même temps être désarçonné aussi par l'ampleur de ces contenus qui peuvent lui paraître aussi quelque part massifs, désarçonnants et pouvant être un peu imposants comme de l'eau lourde, mais c'est aussi par là une façon de me dessiner moi dans mon profil, dans ma singularité par rapport à la concurrence extrême qu'il existe sur Internet. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir entendu, de m'avoir écouté sur cet enregistrement Pour un mot de conclusion, dans ce bouton-là, sur lequel vous pouvez cliquer sur ce site, sur cette première page de site accueil, de l'onglet accueil, c'est que simplement, je pense que nous devrions reconsidérer l'importance de nos rêves. Les rêves ne sont pas des tyrannies, les rêves ne sont pas des récits absurdes dont on ne peut rien extraire, les rêves ne sont pas uniquement des objets à psychanalyste et à psychothérapeute ou à psychiatre. Les rêves sont aussi des récits littéraires qui, d'une grande qualité littéraire, nous surprennent, nous interrogent, nous fixent, nous passionnent, nous obsèdent, etc. Parce qu'ils disent des vérités. Des fois aussi, il faut aussi le prendre dans ce sens-là. Et oui, des vérités. Les rêves sont aussi des vérités. Merci beaucoup.